Bonjour à tous, c'est le 9e épisode de notre série consacrée au rock au féminin. Et là, on s'intéresse au rock français. Un peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal.
Oui.
N'est-ce pas, les amis? Alors, autour de la table, ça n'a pas bougé depuis hier. Christophe?
Toujours là.
Exactement, de la Roxette. Salut, Véro.
Moi aussi, j'ai pas bougé, salut.
Et Timo?
Timo, ici présent. Emilior.
Emilior de The First Time à Met the Blues, bien évidemment. Alors, on commence cette émission consacrée au rock français avec...
Avec Françoise Hardy. Donc, ouais. On a une petite discussion pour savoir si on la mettait ou pas dans cette catégorie. Si elle était digne représentante du rock français, on a décidé que oui. Donc, j'y vais tout de suite.
Allez.
Alors, née en 1944, elle se fait connaître un soir de référendum d'octobre 1962, qui était, petit rappel historique, pour le suffrage universel du président de la République. Voilà, 62, ce qui ne nous rajeunit pas.
Vive de Gaulle.
Voilà, et elle se fait connaître donc pendant la soirée électorale à la télé. Il y a un petit intermède musical où elle chante tous les garçons et les filles. Et du coup, le succès est immédiat. Elle vend 500 000 exemplaires en 2 mois. Et alors qu'elle a commencé la musique à proprement parler qu'un an auparavant, ce qui est quand même une performance.
Enfin, c'est presque un esprit punk déjà.
Ouais. Ouais, bon, n'exagérons rien.
Elle avait peut-être des contacts.
Voilà, c'est tout le monde connaît, hein, Françoise Hardy, c'était une adolescente mélancolique qui était élevée toute seule par sa mère, un milieu assez modeste. Hein, et déjà, à l'époque, elle ne s'épanouit que dans l'écoute du rock'n'roll nouveau en France, venu des États-Unis. C'est ce qui lui a donné envie de composer ses premières chansons. Donc voilà, elle se fait connaître. À la suite de plusieurs émissions télé, elle est repérée donc, par le label Vogue qui cherche un pendant féminin déjà à l'époque à Johnny Hallyday. Donc avant Sylvie Vartan, si ma mémoire est bonne. Donc elle part en studio, elle enregistre des chansons donc assez de l'époque, hein, Yé Yé, Oh Oh Chérie. Enfin, et donc Tous les garçons et les filles, titre que tout le monde connaît. Voilà, c'est le titre qui a le plus marché, j'en ai parlé précédemment. Grâce à ce succès, elle fait la une de Paris Match, elle obtient un rôle au cinéma, 8 semaines de concert à l'Olympia, enfin elle perce. Elle devient l'égérie de plusieurs couturiers et devient même une icône féminine en tant que mode, on va dire. Elle conquiert même les charts anglais, c'est-à-dire qu'elle tourne en Angleterre. Il y a des chansons à elle qui passent à la radio en Angleterre. Elle vend des CD en Angleterre, ce qui était
des vinyles,
déjà... des disques,
ouais,
des CD.
Ouais, excusez-moi, des vinyles. Pardonnez-moi. Ouais. Elle séduit le Mick Jagger, David Bowie, l'histoire est connue. Elle devient leur muse, mais elle refuse leurs avances en gros et se met en couple avec notre Jacques National, Jacques Dutronc.
Les cactus.
Non, mais c'est qu'elle a vraiment envie. Avant tout, c'est une auteure-compositrice, c'est ce qu'elle veut mettre en avant. Elle est assez novatrice, par exemple en 67, donc assez jeune. Hein, elle crée sa propre maison de production, Asparagus, en partenariat avec Vogue. Donc elle gardait quand même sa maison de disques, mais elle voulait une liberté de création. Dès lors, elle crée un album par an, hein, dont certains deviendront des grandes réussites. Et elle crée une nouvelle société de production plus tard. Donc c'était quelqu'un qui était dans le business de la musique, une penseuse de la musique. Elle décide d'arrêter le métier en 88. Et donc le morceau que l'on a sélectionné pour illustrer Françoise Hardy et donc La beauté du diable, un morceau de 1996.
Qui est joué avec un super guitariste français.
Oui, c'est ça, avec Rodolphe Burger. Et l'histoire, pour la petite histoire, c'est aussi Bachung qui l'a un peu poussé dans les pattes de Rodolphe Burger pour lui dire « T'écris bien, t'as une bonne plume, tu fais des textes, bah, je vais te mettre dans les pattes, entre guillemets, d'un bon musicien ».
Ouais, je trouve ça très très fort, Françoise Hardy, pour ce qu'elle représente à l'étranger. Souvent, quand on lit les interviews des grandes stars américaines, s'ils ont une image de la culture française, c'est Gainsbourg et Françoise Hardy, ça revient systématiquement.
Ouais, elle est assez célèbre.
Alors que, en fait, chez nous, bah, ouais, elle a été une star des Yé Yé, mais bon, c'est pas non plus une personne qu'on retrouve.
Ouais, qu'on a tendance à classifier dans la partie rock.
Depuis 88, les choses, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais là, récemment encore, il y a plein d'artistes américains et tout ça. Et Françoise Hardy, c'est quelque chose.
C'est la French girl.
Ouais, c'est ça, ouais. L'image.
La classe française, peut-être. Ouais, c'est aussi. Ça.
Puis, mine de rien, elle a quand même résisté à certaines propositions. On voulait aussi la cantonner dans certains styles qu'elle a quand même assez refusé parce qu'elle se rendait bien compte. Elle était hyper lucide par rapport à la tonalité de sa voix, par exemple, à la tessiture de sa voix. Elle savait bien qu'elle ne pouvait pas faire un truc hyper rock'n'roll non plus. Voilà. Et donc.
Janis Joplin.
Voilà. Voilà. Et elle a été très réaliste par rapport à ça, elle a eu une espèce de ligne de conduite par rapport à son projet artistique que je trouve intéressant. Ouais. Quoi.
Aller résister à Mick Jagger ou à Bob Dylan, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut avoir une personnalité bien ancrée.
Donc, elle représente bien le rock français, la musique française.
Ouais. En tout cas, il y a des rockers qui se sont intéressés à elle.
Bon, ben on écoute La beauté du diable.
Destination plus ou moins connu.
Françoise Hardy, 1996. On continue avec une autre artiste assez intéressante.
Ouais, assez spéciale, c'est Catherine Ribeiro, voilà, qui était d'origine portugaise, qui est née à Lyon au début des années 40. Donc elle fait ses débuts sous le règne des yéyés à l'âge de 20 ans à peu près, dans les années 60. Elle fait surtout, ouais, enfin style folk, quoi, voilà, ça marche avec ça. Et les critiques, notamment, la nomment en fait la voix grave, la John Baez à la voix grave. Voilà, donc c'est une femme quand même qui, au fil de sa vie, s'engagera en fait. Elle était militante contre la guerre du Vietnam, elle soutenait les réfugiés qui fuyaient le régime de Franco, ou elle était aussi pour un État palestinien. Donc voilà, là, elle était, tout au long de sa vie, elle a montré qu'elle avait certaines convictions. Dès l'adolescence, elle écrit des poèmes, elle aimerait bien devenir comédienne, donc elle monte à Paris, elle prend des cours de théâtre, et puis elle dégote un petit rôle dans un tournage de Godard qui s'appelle Les Carabiniers en 1963. Et en fait, être présente sur ce tournage-là, ça a été un virage dans sa vie, parce qu'elle a rencontré Patrice Moulet. Alors lui, c'était aussi un acteur, mais surtout un musicien. Et donc c'est avec elle qu'elle a vraiment démarré sa carrière musicale. Et puis alors eux, ils s'engagent dans l'expérimentation musicale. Il y a des trucs un peu psychés, un peu bizarres. Et donc ils enregistrent un premier album qui s'appelle Catherine Ribeiro plus 2 bis. Alors en fait, dans ces expérimentations-là, elle s'exprime, elle chante pas forcément, elle rit, elle pousse des cris, elle essaie de communiquer avec des onomatopées. Donc c'est un peu spécial, mais pas forcément désagréable
à
écouter, quoi.
Un peu,
ouais,
à la Magma,
exactement, hein. Chez Christophe, ouais, toi, c'est pas ta tasse de thé. Ouais. Mais bon, là, tu vas écouter le morceau, ouais. Je pense que ça va te plaire, donc on peut passer ce morceau-là.
Mais déjà, on peut dire
Voyage.
Que Madame Ribeiro est plus agréable à regarder que Monsieur Vendée.
Exactement, c'était une très belle femme, ouais, cheveux, ouais, longs, noirs, avec une frange.
Ouais, à la Françoise Hardy.
Ouais, exactement, belle femme. Allez, c'est parti, Voyage.
Thank you.
Donc voilà, c'était Voyage, c'est un album qui a été enregistré en 1968. Deux années plus tard, elle enregistre un nouvel album qui s'intitule Catherine Ribeiro et Alpes. Alors c'est toujours aussi avec ce même mec hein, qu'elle a rencontré, Patrice Moulet, qui lui a vraiment permis de décoller. Là, c'est un peu plus rock progressif. Bon, on n'a pas le temps forcément de passer un morceau maintenant, mais ça vaut le coup d'aller chercher ça. Tout à l'heure, je disais qu'elle était assez engagée. Et d'ailleurs, en fait, au fil du temps, au fil des années, tous les médias et tout ça, comment étaient mis en avant les événements, etc., ça lui a pas plu. Et donc, du coup, elle a dit, bon, écoutez, moi, j'arrête de jouer le jeu. J'ai plus envie aussi non plus d'être mise en avant. Donc, elle s'est consacrée, en fait, aux petites salles. Elle jouait dans les églises jusqu'à ce qu'elle finisse par se retirer de la scène en 77, après avoir quand même fait un album qui était les reprises de Piaf, qui s'appelle Le Blues de Piaf.
Ouais, elle a fait beaucoup de reprises, effectivement.
Et après, elle a fait un petit retour là, dans les années 2005-2006. Elle a réenregistré des trucs, elle a réuni de nouveau Alpes. Elle a fait des concerts à Paris, je me souviens, au Bataclan, ce genre de choses. Là, elle avait fait, il doit y avoir un DVD qui traîne quelque part sur les étagères des magasins.
Ouais, elle est toujours active. Enfin, elle continue.
Ouais, alors je sais pas, ça c'était. Ça
c'est
fait longtemps que j'en ai pas entendu
déjà,
parler.
Ouais. Ouais. Courant des années 2000, quoi.
Ouais, je crois que c'est entre 2005-2010. Hein. On avait eu le plaisir de recevoir à nombreuses reprises Francis Campello qui jouait dans Alpes. Et je me souviens qu'il nous avait parlé de ça. C'était un beau projet. Il remettait sur scène tout ça. Et. À surveiller si vous avez envie de découvrir Catherine Ribeiro.
C'est vraiment intéressant parce qu'elle a été importante aussi sur la scène musicale à cette époque-là et on peut trouver ça a été ouais voilà.
Mais c'est vrai qu'elle
elle a été dans l'ombre.
Ouais, et puis elle est un peu complètement oubliée maintenant même.
Ouais, complètement. Ouais.
C'est vrai qu'elle est pas très connue même dans les rééditions de CD ou des choses comme ça. Je sais pas où ça en est mais on la voit pas trop.
Ouais. Donc elle était quand même un peu déjantée avec ses musiques un peu psychées, etc.
Même, hein.
Mais toi tu t'avais attaqué à un gros personnage un peu déjanté quand même.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est vachement dur là.
Allez, vas-y, on te soutient, Véro.
C'était
vas-y.
Lourd à préparer.
Vous êtes avec moi.
Allez, vas-y. Alors,
chers
tu nous présentes
auditrices, auditeurs, voici maintenant Brigitte Fontaine.
Ouais.
Alors, vous pouvez l'applaudir devant votre poste de radio pour la soutenir. Allez-y.
Alors, Brigitte Fontaine, elle naît en Bretagne en 1939. La petite Brigitte, elle est très, très vite quand même un peu sauvage, marginale, voilà. Donc, elle passe des heures enfermée dans sa chambre à lire tout un tas de poésie, de romans et beaucoup de théâtre. Et à 12 ans, elle intègre une petite troupe amateur de théâtre. Et au bout d'un moment, bah, pareil, hein, la Bretagne, ça va bien, c'est beau, c'est sympa. Mais elle va à Paris, voilà, dans les années 60. Elle s'aventure alors dans les cabarets de la rive gauche, dont les fameux Trois Baudets. Et donc, elle reprend des chansons, elle commence à chanter, elle reprend des chansons de Boris Vian et assure quelques premières parties à Bobino. Ensuite, elle rencontre Jacques Higelin assez rapidement. Tous les deux sortent successivement donc, deux albums vers les années 1965-66.
Ah, souvent, on les a présentés comme étant frères et sœurs, cousins,
oui,
cousines.
Oui, oui. Ah,
y avait
ouais,
un peu
avait...
comme les White Stripes.
Ouais.
Il y a une histoire avec Meg White et Jack White dans ce style-là. Pardon, excuse-moi.
Ils sortent deux albums, 12 chansons avant le déluge et puis 15 chansons d'avant le déluge qui revisitent le répertoire de Boris Vian, de nouveau. Et en 68, Brigitte sort son premier album. Ouais, parce qu'on l'appelle Brigitte maintenant. Hein.
On est intime. Hein.
Bah voilà, ouais. C'est ça, exactement.
Elle a failli venir d'ailleurs, mais elle a annulé au dernier
moment. Elle a annulé, ouais. T'es fatiguée, hein, la petite. Brigitte Fontaine est folle. Vous croyez qu'elle est folle?
Bon, en tout cas, elle a dit qu'elle était vieille et qu'elle nous en...
Bip.
Un peu comme...
Alors...
Bon allez, donc, reprenons le cours quand même. Soyons sérieux un petit peu.
Soyons sérieux.
On est sur une série, voilà.
L'univers de la chanteuse s'affirme, donc bon bah c'est un peu dérangeant, hein, voilà, et puis très fantaisiste. Elle fait une importante rencontre avec Areski Belkacem, qui est un musicien algérien né en France. C'est un ami aussi de Jacques Higelin, donc c'est absolument essentiel dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle et artistique. Il se quitte plus. Brigitte Fontaine est aussi quelqu'un d'engagé à sa manière. Hein. J'avais juste envie d'évoquer ce moment d'avril 71 où le manifeste des 343 salopes est publié dans le Nouvel Observateur et recueille les signatures de 343 femmes ayant eu recours à l'avortement alors que cette pratique était encore illégale en France. Donc elle s'affiche vraiment son soutien à ce mouvement. Tout au long de sa vie, elle aura à cœur de s'investir dans les luttes sociales et politiques, qu'il s'agisse de la prévention contre le sida ou la défense des sans-papiers. De toute façon, elle est engagée mais elle ne prend pas sa carte de parti. Hein, voilà. Mais elle est très présente. Les années 80, c'est un petit peu chaotique. Le public la boude. De son côté, elle continue d'écrire. Sa réconciliation avec le public s'effectue véritablement en 93, en fait, au Bataclan, sur une mise en scène de Jacques Higelin, accompagnée par son mari Areski, mais aussi par ses potes Moustaki et Arthur H. Faisant office d'accordéoniste, elle donne un concert magnifique, voilà, que le public n'oubliera pas. Mais elle est toujours ignorée des médias. Les médias aussi la boudent.
Ouais. Mais parce qu'elle est difficilement contrôlable aussi.
Exactement.
Quand tu l'invites sur un plateau, tu sais pas dans quelle direction ça va partir.
Voilà. Ouais, tout à fait.
Il y a Brigitte Fontaine et Django Edwards.
Et Jacques Higelin.
Ouais. Ouais. On peut dire, pour terminer, qu'entre 66 et 2013, il y a environ une vingtaine d'albums, albums de reprises, nombreuses collaborations, vraiment. Voilà, on a cité Areski, Higelin, M, Noir Désir, Arthur H. Elle écrit aussi pour d'autres, Étienne Dao, Juliette Gréco, Vanessa Paradis, et j'en passe. On va écouter un petit morceau qui s'appelle La Côtelette.
Ouais.
Eh ouais.
Rien à voir avec le film de Bertrand Blier.
Rien à voir.
Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un liseron, je suis un édredon. Je suis une poupée et je suis un gibier. Je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir. Je suis un reposoir. Un monstre familier. Une puce dressée. Poète, prends ta lyre, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
On peut dire aussi encore deux, trois petits trucs. Oui, moi, j'ai quelques souvenirs de Brigitte Fontaine au moment de la sortie de son album Kékéland, là, quand elle était sur Nulle part ailleurs et tout ça. Et elle était en collaboration avec des grands noms du rock, Noir Désir, Sonic Youth, c'est pas vain, ça. Et on retombe encore sur Françoise Hardy parce que sur cette petite galette, elle faisait des portraits sur Gainsbourg, sur Françoise Hardy.
Un peu humoristique.
Donc, Bah, voilà, c'était ma part sur Brigitte Fontaine.
Bah, très bien, t'as bien fait.
Ouais.
Mais maintenant, c'est le tour de Ben.
Et bah,
ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu.
Bah, depuis hier. Allez, Ben, reviens, s'il te plaît, parmi nous.
Ouais. Allez, on t'écoute.
Toujours là, les filles, toujours avec nous, toujours avec Peggy. Surveille un petit peu tout ce que je raconte là, et puis ben écoutez, on va vous raconter une histoire. Une histoire, alors moi c'est un coup de cœur, personnel d'une femme qui m'a beaucoup marqué sur ses écrits. Inconnue du grand public, je trouvais très peu de choses sur elle. J'ai réussi à faire un découpage, donc cette femme c'est Irina Senderowa. C'est une Polonaise, Irina, donc on l'appellera Irina Sandler. Elle est née en 1910 à Varsovie. Elle est morte le 12 mai 2008 à Varsovie. Et c'est une résistante, une militante polonaise qui sauva 2000 enfants juifs, qui fut déclarée juste parmi les nations en 1965. Irina, elle a grandi à Oswork, dans une banlieue ouvrière de Varsovie. Donc mariée à Mieczysław Sander, elle divorce après la guerre. Elle se remarie avec un autre activiste clandestin, Stefan Grunblisk. Ils ont trois enfants ensemble, deux garçons et une fille qui était encore vivante à la mort de leur mère en 2008. Vient la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dès les premiers jours de l'occupation allemande, elle commence à travailler au service d'aide sociale à la mairie de Varsovie, où elle organise l'aide aux pauvres. Dans la section d'aide à l'enfant, un groupe clandestin, sous la direction de l'écrivain Jean Dobrowolski, se forme pour venir en aide aux enfants abandonnés qui sont légion à Varsovie après 1939. Cette aide concerne aussi les enfants sortis clandestinement du ghetto. Certains de ces enfants se sont enfuis par un trou dans le mur du ghetto, donc ont été sortis dans les camions de pompiers, des ambulances ou sous des ordures. Le groupe prépare de faux papiers, certificats de naissance, enquête familiale pour placer les enfants dans les orphelinats ou familles d'accueil. En décembre 1942, la commission d'aide aux Juifs la nomme chef du département de l'enfance. Elle organise le passage clandestin des enfants du ghetto vers les familles et les institutions à Varsovie, Turkowice ou Chłodomów près de Varsovie. Le 20 octobre 1943, elle est arrêtée par la Gestapo et emmenée à la prison de Paviak. Malgré les tortures qui la laissent infirme à vie, bras et jambes brisés, elle n'avouera rien de son réseau. Elle est condamnée à mort. Zegota réussit à la sauver en achetant les gardiens de la prison. Irina recueillit tous les noms d'enfants qu'elle avait sortis du ghetto et garda ces noms dans une jarre en verre enterrée sous un arbre au fond de son jardin derrière sa maison. Elle est reconnue juste parmi les nations par Jan Vasem en 1965. C'est en 1999 que son histoire a commencé à être connue grâce à quatre jeunes étudiants et leur professeur Noman Conrad de la ville d'Uniontown au Kansas. Elles ne trouvèrent que peu d'éléments sur Irina, mais il y avait un chiffre surprenant. Elle avait sauvé la vie à 2500 enfants. Elle aurait été âgée de 89 ans. Ces quatre étudiantes se rendirent en Pologne pour rencontrer Irina Sandler. Après la guerre, Irina Sandler a transmis la liste des noms et des familles d'accueil qu'elle a remis à Adolf Berman, le président du comité juif en Pologne. Grâce à cette liste, les membres du comité réussirent à retrouver environ 2000 enfants. De santé fragile, Irina Sandler était restée à l'écart des cérémonies qui lui rendirent hommage en 2007. Mais elle avait fait lire une lettre par une survivante, Elzbieta Fikowska, qu'elle avait sauvée comme bébé en 1942. Elle avait écrit « J'appelle tous les gens de bonne volonté, à l'amour, la tolérance et la paix, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. » Elle disait aussi « On ne plante pas des graines de nourriture, on plante des graines de bonnes actions. Essayez de faire des chaînes de bonnes actions pour les entourer et les faire se multiplier. » Irina Sredlerova meurt le 12 mai 2008 à Varsovie sans avoir reçu le prix Nobel. On garde d'elle un symbole de la résistance face aux horreurs qui ont pu commettre des êtres humains envers d'autres êtres humains qu'ils considéraient indignes de vivre.
Bon les filles, toujours avec nous, toujours en compagnie de Peggy qui gambale entre les chaises et les pieds de table. Donc Peggy qui surveille assidûment tout ce qui va se raconter encore. Donc on va vous raconter une histoire. Donc c'est une histoire contemporaine, malheureusement. On va l'appeler Lola. Et Lola, c'est une prostituée des temps modernes. Lola, elle a 18 ans. Hein, c'est du moins ce qu'elle prétend. Car voilà 2 ans qu'elle a 18 ans. Et elle aura certainement encore 18 ans dans 5 ans, Lola. Alors qu'elle était encore au lycée, Lola a commencé à se prostituer via une plateforme internet et les réseaux sociaux. Lola, anonyme, invisible, ses parents n'y ont vu que du feu, face à une adolescente taciturne et introvertie dont ils n'imaginaient pas qu'elle puisse ainsi un jour leur échapper. Pourquoi a-t-elle fait cela? Et pourquoi pas? Une façon d'échapper à la réalité, de se soustraire à un destin tout tracé par ses proches, qui la voulaient certainement avocate ou architecte. Lola a pris la tangente. Cette image de la jeune femme parfaite, active et dévouée, sexuellement désirable et mère de famille sage, capable de répondre aux injonctions schizophrènes d'une société masculiniste qu'elle juge hypocrite, non, merci. Rupture familiale, ça tombe bien. Elle s'est constituée un petit pécule grâce à ses passes occasionnelles, sans pouvoir réellement le dépenser tant qu'elle vivait à la maison. Elle a quitté Saint-Cloud pour Barbès. Inscrite à Paris 8 en sociologie, elle est attirée par les études sur le genre et le féminisme pro-sexe. Elle lit Gay Rubent et Paola Tabé, Chrysalidi Réald et Virginie Desplantes. Miroitement de ses intuitions, cette idée selon laquelle disposer de son corps, combat féministe premier, c'est aussi pouvoir se vendre. Duplicité d'une société marchande et érotisée qui persiste à réprimer le corps des femmes au nom de la morale. La vraie question, lui semble-t-il, c'est celle de la protection sociale dont doivent bénéficier les travailleuses du sexe. Elle adhère à cette idée selon laquelle la sexualité tarifée est une performance corporelle qui, loin de dégrader les femmes, leur procure une expérience sociale originale et les octroie une certaine forme de pouvoir, d'où sa répression. Elle refuse cette sommation sociale faite aux filles d'avoir honte de toute leur sexualité, un tant soit peu intrépide. Lola vit désormais dans une mansarde sommaire et finance ses études grâce à une prestation hebdomadaire dans sa salon de massage. Par solidarité et militantisme, elle s'est investie dans une association de soutien aux prostituées, migrantes, sans papiers, à leur compte ou liées à des réseaux mafieux. Mineurs pour la plupart qui tapinent au bois de Vincennes dans la plus grande précarité, au danger de la prostitution s'ajoute là, à ses yeux, la question migratoire et celle des inégalités économiques mondiales que le limpé prolétariat du sexe adresse à la concupiscence honteuse des Européens.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur studiosf91.1 ou à podcaster sur studiosf.fr. À très bientôt.